Bon matin, Isabelle.
Bon matin.
Retour sur les élections partielles d'hier. Il y avait 3 partielles, une au Québec, une en Ontario et une en Colombie-Britannique. Il y avait quand même un chef qui misait sa place, ben, qui essayait de s'insérer du moins à l'intérieur de son parti.
Qui fait enfin son entrée à la Chambre des communes. En fait, 3 partielles hier, on n'a pas vraiment eu de surprise. Hein, puis je pense qu'on n'en attendait pas. Des fois, on se gonfle un peu les affaires avant les partielles. On essaie de voir des courses là où il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de surprise. Le NPD l'a remporté à Vancouver. Le Château-Fort conservateur en Ontario est resté aux conservateurs. La petite surprise, qui n'en est pas vraiment une, c'est que les libéraux récupèrent le Château-Fort d'Outremont. Outremont qui a été libéral dans toute son histoire. Une exception conservatrice. Et les 10 ans de Thomas Mulcair avec le NPD.
Mais en même temps, Thomas Mulcair était à la fois un candidat de prestige. Tu sais, c'était quelqu'un qui était connu.
Absolument.
Et
c'est un ancien libéral québécois.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, à quel point avait-il une affiliation forte avec le NPD au moment de sa première élection?
En même temps, tu sais, Thomas Mulcair était à l'intérieur du Parti libéral du Québec de l'aile gauche. Là, tu sais. Il était reconnu comme ça.
Clairement.
Donc, tu sais, son affiliation idéologique au NPD n'était pas si surprenante.
Mais il aurait très bien pu être un libéral, là.
Probablement, surtout un libéral d'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, avec Justin. Oui,
parce qu'avec Justin, le parti s'est recentré à gauche. Pas vraiment de surprise, mais il y a deux choses que j'observe. La première, évidemment, c'est Jack Metzing qui fait son entrée à la Chambre des communes. Ça doit être un soupir de soulagement
pour lui. Pour le parti, je suis pas sûr.
Pour le parti, c'est pas sûr. En même temps, c'est ça. Son chemin de croix ne fait que commencer. T'sais. D'abord, non seulement il va devoir maintenant faire face à ses adversaires en Chambre des communes jour après jour. Ça va lui donner de la visibilité. Il faut qu'il en tire bon profit. Il faut pas qu'il fasse trop d'erreurs. Deuxièmement, il faut qu'il reprenne le contrôle de son parti, de son caucus. Il y a eu beaucoup de grogne. On se questionne sur sa capacité à mener le bateau du NPD à bon port, à pas finir comme un traversier du fleuve Saint-Laurent.
Mm-hmm. Accroché sur le quai.
Accroché sur le quai, tu sais, avec tous les déboires qu'ils ont. On pourrait faire des beaux comparatifs. Il y a la question du financement. Ça va très mal au niveau du financement au NPD. Ça prend une cagnotte pour la campagne électorale de l'automne. Il faut recruter des nouveaux candidats. Il y a déjà 11 députés qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Là, est-ce qu'il va être capable de freiner cette hémorragie, donc de conserver les 33 qui se représentent en principe ou qui n'ont pas annoncé leur intention? Il faut en recruter d'autres. Ça lui prendrait quand même quelques vedettes.
Tu baignes en politique depuis un bon bout de temps. Dirais-tu qu'il y a un momentum? Parce que là, outre la perception du public, là, le momentum à l'intérieur du parti, quand les gens quittent, outre le message que ça envoie à l'extérieur, parce que ça, c'est une chose, mais vraiment, de l'interne, me semble que tu mines ton travail, ça n'a pas de bon sens.
Bien, quand les gens quittent, c'est parce que l'esprit d'équipe n'est plus nécessairement là. T'sais, si tu es un député en fonction et que tu décides de quitter maintenant, d'abord, c'est que tu ne crois pas nécessairement à ta réélection ou à ta capacité de progresser. T'sais, les gens, ils veulent progresser dans leur carrière, c'est la même chose en politique.
Mm-hmm.
Si ça fait un certain temps qu'ils sont députés, ils ne voient pas nécessairement qu'ils vont s'améliorer, ils ne voient pas nécessairement de bon augure la campagne électorale, ben, ils choisissent pour eux-mêmes, de ne pas se représenter puis de faire autre chose de leur vie. Mais ça, c'est une ambiance aussi. C'est que les rangs ne sont pas nécessairement serrés et qu'ils n'ont pas envie d'aller à la guerre ensemble.
Et ça ne les resserre pas beaucoup non plus.
Ça ne les resserre pas beaucoup non plus. Puis après ça, il y a toute la question du Québec. T'sais, le Québec va être un terrain très important pour les libéraux, mais pour le NPD aussi. C'est par ici que la vague orange est arrivée. S'ils veulent se remplumer un peu, il faut faire au moins préserver les acquis au Québec, peut-être même faire des gains. Là, on nous annonçait déjà hier que la semaine prochaine, le chef du NPD serait au Québec pour nous annoncer un nouveau plan de séduction du Québec. On a bien hâte de voir ce qu'il y aura là-dedans. Mais tu sais, l'offre politique au Québec est diversifiée. On a de la misère à se positionner. Je ne sais pas très bien ce que le NPD et son nouveau chef pourraient nous proposer de si alléchant par rapport à tout ce qu'on a comme offre politique maintenant.
Il faut rappeler aussi que les Québécois étaient tombés en amour avec Jack Layton.
Exactement.
Y en a quelques-uns qui ont survécu, qui sont passés après parce qu'ils faisaient du bon travail puis parce que les idées sont pas si loin de ça, de celles du Québec, mais de parler d'une forme d'amour entre le Québec et le NPD, c'est fort, là, tu sais.
Oui, absolument. Puis surtout que, tu sais, Jack Metzing n'a rien à voir avec Jack Layton. Bon, il y a la question des signes religieux dont on a
amplement
parlé.
Tom Mulcair non plus, d'ailleurs.
Tom Mulcair non plus, mais
c'est
en même temps...
C'était un Québécois, mais...
C'était un Québécois. On aurait pu s'identifier un peu plus à lui. Il avait probablement aussi lui-même une plus grande sensibilité sur la différence entre le Québec et le reste du Canada.
Mm-hmm.
Mais bref, ce ne sera pas facile pour le NPD, mais ça m'amène au Québec puis à la situation du Bloc. Tu sais, hier, on disait... En fait, on se n'est pas dit parce qu'on n'a pas parlé finalement hier matin, mais le résultat... Regardez la progression du Bloc dans les sondages récemment, qui ne s'est pas nécessairement traduit en progression dans Outremont.
Mais ça demeure une partielle.
Mais ça demeure une partielle, ça demeure un château fort libéral où le Bloc n'a jamais vraiment performé. Mais moi, ce qui m'inquiète, ou en tout cas ce que j'observe encore plus largement, c'est cette faille qui existe entre Montréal, l'île de Montréal et les régions. Donc, probablement que la progression du Bloc, elle vient de la progression de la CAQ, puis du fait que la CAQ a obtenu le pouvoir avec les régions du Québec, pas du tout à Montréal ou à peu près. Donc là, si...
Je sais pas si c'est rassurant ou non, mais ça ressemble beaucoup au chemin du PQ aussi. T'sais, le PQ qui a toujours performé pas mal plus en région que dans les grands centres, et particulièrement Montréal.
En même temps, le PQ avait, tu sais, dans l'est de Montréal... C'était très présent quand même à une certaine époque, mais là, on
mais
sent
Montréal,
que...
Montréal-Québec, ça a quand même toujours été difficile.
C'est très difficile. Bien là, c'est de plus en plus difficile. Puis tu sais, c'est un peu ce qu'on observe, c'est que l'île de Montréal est comme seule au milieu du Québec avec des choix politiques différents. Est-ce que c'est de ça que le Bloc est victime? Je pense que oui. Je pense que la montée du Bloc est portée par le résultat que la CAQ a obtenu puis le retour à Québec d'un parti très nationaliste, et que là, c'est un peu ce qu'on observe. Puis donc, comment est-ce que ça va se jouer dans la campagne fédérale? C'est intéressant.
Tu nous amènes une réflexion qui est intéressante sur l'aspect, il y a peut-être deux provinces dans cette province, plus que jamais. T'sais, Montréal a toujours eu sa réalité un peu différente, mais on dirait qu'elle s'accentue avec le temps.
Il y a ça, puis l'autre présomption que j'ai qu'il faudrait que je vérifie, c'est comment est-ce que le vote s'exprime dans les grands centres par rapport aux régions, même partout au Canada. Est-ce que le spectre politique est en train de changer pour qu'il y ait une dichotomie entre les villes et les régions, mais qu'elle s'accentue de manière très importante,
c'est possible.
Que ça devienne un problème.
C'est possible. Un petit clin d'œil à l'international. Tu voulais nous parler du magazine de la NRA, donc l'Association américaine des armes à feu, la National Rifle Association. Publication
qui a
fait jaser.
J'ai été vraiment choquée. En fait, Nancy Pelosi, avec un certain nombre de représentants démocrates à la Chambre, porte un projet de loi assez simple contre les armes à feu, mais en fait, qui ne vise qu'à contrôler les antécédents pour l'achat légal d'armes à feu. Donc, pas interdire, pas limiter le type d'arme qu'on peut acheter, juste avoir un meilleur contrôle des gens qui l'achètent. Mais là, la NRA, dans son édition de mars, fait une incroyable où c'est écrit « Target Practice » avec une photo de Nancy Pelosi et d'autres femmes, dont Mme Giffords, qui a été elle-même victime d'un tir dans le cadre d'un homme qui a fait une tuerie de masse. Elle n'est pas décédée, elle en a survécu.
Non, non, non.
Elle est sur la photo maintenant et elle porte ce projet de loi-là.
Mais elle n'est
et
pas
là,
décédée,
la NRA,
mais elle était maganée en tabarouette
était maganée.
Sur le coup, là.
Target practice, on s'entend, ça veut
cible
dire tir à la cible. Mm-hmm. Exactement. Mm-hmm. Et là, tu as cette une avec les photos de ces femmes. On ne peut pas dire que c'est pas de l'incitation à la haine. C'est carrément irresponsable de leur part. Je trouve ça effroyable de voir ça en 2019. À mon avis, tous les propos sont légitimes sur la question, sur comment est-ce qu'on devrait réguler ou pas le contrôle des armes à feu, mais en même temps, tu ne peux pas appeler à la violence comme ça.
Ils vont se défendre en disant « Mais non, mais c'est le double sens. »
Peut-être. Mais n'empêche qu'ils ont une responsabilité. D'abord, ils s'adressent à des gens qui ont des armes à feu. C'est inacceptable, même si cette page finit comme simple cible de tir dans un champ de pratique. Non, mais puis après ça, on est à quelques pas de quelqu'un avec un esprit un peu tordu qui voit en ça un véritable appel à passer à l'acte.
Donc,
ça m'a vraiment touchée comme femme, comme progressiste aussi qui veut le contrôle des armes à feu.
Ben moi, je vois ça là, avec une... C'est sûr qu'il y a des gens qui vont l'avoir affiché sur le bout de leur champ puis qui vont tirer dessus. Que sur l'affiche, là. Mais déjà là, je trouve qu'il y a quelque chose de très malsain dans l'idée.
Horrible.
Merci beaucoup, Isabelle.
À
on se reparle demain.